Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Alia Tovin, Cédric Fuentes, Louis Drillon, Arjuna Andrade et Isol Sicard. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Pierrick Mancini.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Notre semaine consacrée au mirage de la dette se poursuit. Aujourd'hui, c'est sur l'histoire des banqueroutes d'État que nous allons nous pencher. Sous l'Ancien Régime, les emprunts servent avant tout à financer la guerre et les dépenses somptuaires. La faillite et l'inflation sont alors autant de stratégies qui permettent à l'État d'échapper à ses créanciers. Le 30 septembre 1797 a lieu la dernière grande banqueroute de l'histoire de France. Plus des deux tiers de la dette publique sont rayés d'un trait de plume. Alors comment la relation moderne de l'État à la dette s'est-elle progressivement construite en France? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Il est 14h sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons retracer les heures et malheurs de la dette de l'État depuis l'Ancien Régime jusqu'à l'aube du XXe siècle, en compagnie de Michel Loutfala, chercheur attaché au laboratoire Institutions et dynamique historique de l'économie et de la société à l'Université Paris 1 Sorbonne, et directeur de l'ouvrage Une histoire de la dette publique en France, paru chez Classique Garnier, en compagnie également de Patrice Bobo, historien, maître de conférences en histoire économique à l'Université Paris Nanterre. En fin d'émission, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera des nouvelles de l'écho.
Depuis le temps que les utopiens pratiquent ce négoce, ils ont accumulé une quantité incroyable de richesses. C'est pourquoi il leur est indifférent aujourd'hui de vendre au comptant ou à terme. Ordinairement, ils prennent des billets en paiement, mais il ne se fie pas aux signatures individuelles. Ces billets doivent être revêtus des formes légales et garantis sur la foi et le sceau de la ville qui les accepte. Le jour de l'échéance, la ville signataire exige le remboursement des particuliers débiteurs. L'argent est déposé dans le trésor public et on le fait valoir jusqu'à ce que les créanciers utopiens le réclament. Ceux-ci ne réclament presque jamais le paiement de la dette entière. Ils croiraient commettre une injustice en ôtant à un autre une chose dont il a besoin et qui leur est à eux inutile. Cependant, il y a des cas où ils retirent toute la somme qui leur est due. Cela arrive quand ils veulent s'en servir pour prêter à une nation voisine ou entreprendre une guerre. Dans ce dernier cas, ils ramassent toute leur richesse pour s'en faire comme un rempart de métal contre les dangers pressants et imprévus. Ces richesses sont destinées à engager et à solder copieusement des troupes étrangères, car le gouvernement d'utopie aime mieux exposer à la mort les étrangers que les citoyens. Il sait aussi que l'ennemi le plus acharné se vend quelquefois, si le prix de la vente est à la hauteur de son avarice. Il sait qu'en général, l'argent est le nerf de la guerre, soit pour acheter des trahisons, soit pour combattre à force ouverte.
Michel Loutfala et Patrice Bobo, bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. C'est un extrait de l'Utopie de Thomas More, paru en 1516, qui ouvre cette émission, extrait lu par Cédric Fuentes de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Thomas More le disait déjà au tout début du XVIe siècle, c'est avant tout pour financer la guerre que les États recourent à l'emprunt. Michel Loutfala.
Oui, il y a sept causes principales de dette, mais la guerre est à l'origine de... Et la première cause est très longtemps... la plus importante.
Quelles sont les six autres?
Alors, les six autres causes de dette sont les révolutions dans l'ordre politique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une révolution, il y a des problèmes de recettes fiscales. Et par contre, en général, il faut récompenser les gagnants. Et donc, les révolutions, en général, sont une source de dette. La troisième cause, c'est ce que les gens de l'époque ancienne appelaient les bâtiments somptueux, les entreprises folles. Alors ça peut être Versailles, qui à l'époque a coûté très cher, en gros 2 ans des revenus du roi. Mmh. Ça peut être on a appelé ça plus récemment, les grands travaux du président.
On va peut-être voir au fur et à mesure de l'émission
oui,
les différentes...
Je classe à part la quatrième cause qui sont les chemins de fer, qui ont coûté très cher en France au 19e puisqu'ils étaient financés largement par l'État.
Bon, on va y revenir, mais alors peut-être d'abord, Patrice Bobo, la question de la guerre, c'est effectivement une constante en termes de financement pour l'État. C'est la première cause de la dette publique.
Oui, tout à fait. Jusqu'à tout récemment, en fait, on peut considérer que
jusqu'au milieu du XXe siècle, c'est clairement la principale cause d'endettement de l'État français. Et ce n'est que depuis les années 1950 que le coût de la dette est devenu progressivement moins important sous sa forme militaire que sous d'autres causes qui sont des causes sociales, civiles, d'intervention économique.
Alors on va commencer par parler de la dette publique sous l'Ancien Régime avec vous, Michel Loutfala, puis on s'intéressera au 19e siècle dans un second temps avec vous, Patrice Bobo. Avant la Révolution française, Michel Loutfala, l'État français emprunte massivement donc pour financer la guerre, mais aussi parce que la capacité à lever l'impôt est encore très limitée, les rentrées de recettes manquent de fiabilité.
Oui, alors absolument. Mais comme vous le savez sans doute, le système fiscal est complexe, c'est-à-dire que c'est pas les, il n'y a pas beaucoup de percepteurs, ce sont des particuliers, des financiers qui vont avancer l'argent à l'État et qui se rembourseront en prélevant l'argent. Alors un des très bels exemples, c'est l'impôt sur le sel, la gabelle, par exemple, et il y en a plein d'autres comme ça. Parce que l'administration publique n'est pas encore à l'époque suffisamment développée. Mais petit à petit, ça va se développer et nous arriverons au système actuel.
Et ce qu'il faut bien expliquer, c'est que la banqueroute, sous l'Ancien Régime, constitue la norme. C'est-à-dire que l'État fait régulièrement défaut en annulant purement et simplement sa dette.
Alors, les banqueroutes, ça peut être une banqueroute, totale. L'État va complètement cesser de tout payer. Ou il y a d'autres systèmes, je dirais pas plus sophistiqués, mais qui ne trompent guère les financiers de l'époque. L'Ancien Régime est caractérisé par la dualité entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement. Alors, l'État va procéder régulièrement, quand il peut payer ses dettes, il va dire, la monnaie de compte, ça vaut désormais beaucoup moins, on vous donnera beaucoup moins en monnaie métallique. Et alors, aux merveilles de l'époque, ça s'appelle un rehaussement à l'époque.
Alors, et ça permet de diminuer la dette, Patrice Bobo.
Ça permet de payer moins la dette en tout cas.
Pour faire comprendre aux auditeurs, en fait, les pièces métalliques de l'époque, qui sont la principale forme de monnaie, ne portent pas de valeur faciale. Contrairement aux pièces ou aux billets que nous utilisons, nous, il n'y a pas de valeur indiquée dessus. Donc c'est le roi qui indique pour quelle valeur, quelle quantité de valeur monétaire, ces pièces doivent être acceptées. Et donc c'est ce qu'on appelle le cri des monnaies. Et ce cri des monnaies, c'est un privilège du roi, et donc il peut modifier, comme le dit Michel, la valeur de chacune de ces monnaies.
Et alors le problème lié au fait que l'État peut faire défaut, c'est que les créanciers vont demander des taux d'intérêt très élevés, des avantages fiscaux. Et alors en 1522, avec François Ier, apparaît l'idée de rente perpétuelle, c'est-à-dire l'idée que la dette ne serait pas destinée à être remboursée et dont le paiement des intérêts entrerait de façon structurelle dans les comptes de l'État, Michel Loutfala.
Absolument. Et alors, il y a en partie des raisons religieuses, car comme vous le savez, l'interdiction du prêt à intérêt est une des caractéristiques de notre société médiévale.
Donc, on refuse l'usure.
Là, il n'y a pas l'usure. Mais bien évidemment, et là on va revenir aux situations diverses, quand il y a une guerre, quand l'État est pris à la gorge financièrement, il est obligé d'emprunter à des taux parfois extrêmement élevés. En tout état de cause, relativement, les taux sont toujours trop élevés. Pourquoi ? Parce que la croissance de l'économie française de l'époque, dans la mesure où on arrive aujourd'hui à la mesurer rétrospectivement, est toujours très faible. Ça se promène aux alentours de 1% jusqu'à la révolution industrielle, il ne faut pas se faire d'illusions, ou à peine mieux. Or, un taux d'intérêt très bas, c'est 3%, c'est donc déjà plus que le taux de croissance de l'économie. Et il y a des périodes où, quand les choses vont vraiment très mal, alors je crois, j'ai noté le chef-d'œuvre, c'est sous Louis XIV, en 1659, la dette rapporte 50%. Alors vous voyez, comparé, donc, dans une situation comme celle-là, que peut faire le roi autre chose que finalement rendre gorge à ses créanciers, c'est-à-dire
Et alors, il y a différentes façons pour le faire. Il peut aussi menacer d'emprisonner ou de confisquer les biens ses créanciers. Et ce qui est intéressant, peut-être, c'est de voir que ces banqueroutes, elles ne sont pas forcément perçues comme impopulaires par le peuple. Patrice Bobeau, finalement, les créanciers sont les dindons de la farce, en quelque sorte.
Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que c'est un jeu, en fait. Il y a toute une mise en scène dans ces lits de justice ou ces visas, qui sont des opérations très solennelles, et dans laquelle les créanciers presque considérés comme coupables d'avance doivent venir présenter, faire la preuve, c'est le sens du visa, que les titres qu'ils portent sont valables et qu'ils ne n'enfreignent pas sur la souveraineté du roi ou son honneur. Donc il y a une révision à cette occasion de toutes les dettes qui sont présentées pour trier entre celles qui sont légitimes, celles qui ne le sont pas, celles qui sont trop qui ont un taux d'intérêt trop élevé et celles qui ont un taux d'intérêt raisonnable. Et donc on va à la fois annuler des dettes et réduire le taux d'intérêt sur les dettes restantes, voire réémettre une nouvelle dette qui vient, terme qu'on emploie, consolider la dette ancienne. Mais c'est un jeu parce que, en réalité, les élites qui ne payent pas l'impôt, dans la France privilégiée de l'époque, sauf le 10% de l'Église, mais les élites qui ne payent pas l'impôt, sont les principales détentrices, directement ou indirectement, de la dette. C'est ce que Daniel Dessert a montré à travers le schéma, ce qu'il appelle le schéma fisco-financier, c'est-à-dire que ces élites qui détiennent la dette, elles ont intérêt à la fois à la pérennité de l'État, puisqu'elles sont des élites de cet État, et en même temps, elles cherchent à en gagner le maximum, et donc il y a un jeu de compromis qui existe forcément.
Alors, dès 1561, la vente des biens du clergé est avancée comme une solution pour renflouer les caisses de l'État, mais on verra que ça interviendra beaucoup plus tard, au moment de la Révolution française, et sous le règne de Louis XIV, qui est marqué par 33 ans de conflit, les dépenses vont exploser, et le contrôle des finances dépend alors du département de la guerre, Michel Loutfala. C'est assez emblématique.
Pendant une période, oui, Chamillard va cumuler les deux fonctions, mais c'est plutôt exceptionnel. Mais je voudrais juste revenir sur un point tout à l'heure, sur la dangerosité d'être financier. Il y a un grand exemple, et qui est bien connu des amateurs d'Alexandre Dumas, d'ailleurs, par ailleurs, c'est Fouquet, qui fut contrôleur des finances, et qui s'est retrouvé enfermé avec le masque de fer à Pignerol pendant... jusqu'à sa mort. Mais c'est exceptionnel. Hein. Les financiers, en général, s'en tirent en consentant des réductions, enfin, en acceptant, finalement, une partie de la banqueroute exigée par le roi.
Et alors, à la mort du roi Soleil, en 1715, la dette s'élève à plus de 2 milliards de livres. Alors, comment est-ce qu'on arrive à une telle somme, Michel Loutfala?
En gros, si vous voulez, pour raisonner comme les modernes, ça ferait à peu près 250% du revenu national. Alors que, comme vous savez aujourd'hui, les gros problèmes que nous pose l'Union européenne, c'est quand on dépasse 100%. Eh bien, comment on est arrivé? Parce que, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a eu une succession de guerres et pas toujours heureuses. Et donc, la guerre, ça coûte très cher.
Et Louis XIV a largement...
En plus, il y a, de temps en temps, sous l'Ancien Régime, il y a des aléas climatiques. Et le grand hiver de 1709, avec... il doit y avoir plus d'un million de morts de faim dû au froid, ça réduit fortement, de toute manière, la masse imposable. Alors, tout s'est cumulé, la guerre, les intempéries, j'ai les cité tout à l'heure, la construction du château de Versailles.
Pendant son règne, entre 1686 et 1709 plus particulièrement, on compte près de 40 changements de valeur légale du louis d'or et de l'écu d'argent dans les deux sens, au point qu'à la fin du règne de Louis XIV, la monnaie a perdu près d'un tiers de sa valeur. Et alors c'est là que va intervenir John Law, aventurier et économiste écossais. Écoutons-le d'abord dans cet extrait d'un film de Stéphane Yager intitulé « John Law, la banque royale et le krach de 1720 ».
Le lendemain de la mort de notre roi bien-aimé, Philippe d'Orléans, était régent du royaume de France. Et au bout de quelques jours, ce que chacun savait déjà a été divulgué. L'État était en faillite. Il avait sombré dans la banqueroute. C'est alors qu'on s'est souvenu de l'existence de ce... Par quel nom charmant m'avez-vous désigné ? Ce risque-tout, ce fanfaron inconséquent, tout droit sorti de l'univers des illusions, comme vous l'avez écrit. J'ai fait l'objet d'un brusque regain d'intérêt, car la donne avait changé. John Law, ce petit vaurien d'Écossais, a soudain été élevé au rang de sauveur de la nation.
Que de temps perdu qui aurait pu être consacré à redresser la situation. Et le duc d'Orléans ne m'a pas été d'un grand secours, je dois bien l'avouer. Il passait le plus clair de son temps avec ses nombreuses maîtresses ou bien avec ses éphèbes. Mais bien qu'il n'eût pas un seul moment de lucidité dans la journée, l'idée de faire de l'argent à partir du néant a vite suscité son enthousiasme.
Faire de l'argent à partir du néant, voilà ce que nous dit John Law. Alors justement, on va y revenir. C'est en 1716 que l'Écossais John Law, dont le nom se prononçait alors Las, réussit à convaincre le régent Philippe d'Orléans de remplacer l'or par une monnaie de papier afin de résorber la dette. En quoi consiste exactement ce système, Michel Loutfala ?
Ah ben non, c'est un peu plus complexe que ça. Il n'y a pas seulement de la création de papier. L'époque... Et je vais insister, c'est pas seulement en France, l'époque est également aux compagnies coloniales. Et le système de Las va cumuler une banque royale en France, émettrice de papier, mais dont une partie des ressources doit venir de l'exploitation de colonies, et c'est la célèbre Compagnie des Indes. Et on a toujours dit « Ah, mais les Français sont très en retard sur les Britanniques ». Or, exactement au même moment, les Britanniques, à Londres, se fondent une compagnie coloniale également, qui a également pour but de rembourser la dette publique du roi d'Angleterre. Donc,
Et alors, pour bien comprendre le système de Law, la Compagnie des Indes va racheter de la dette publique aux épargnants et en échange émettre des actions qui deviendront une sorte de monnaie.
Absolument.
Alors, Patrice Bobo, ce qui est intéressant, c'est que la Banque Générale devient donc cette banque royale en 1718 et elle reçoit la pleine propriété de la Louisiane. C'est notamment cela qui va permettre de créer de la valeur.
Oui, alors, en fait, on a deux monopoles qui se créent, un monopole bancaire autour de la banque royale, un monopole colonial autour de la Compagnie des Indes, puisqu'elle reprend toutes les autres compagnies qui existaient auparavant. Et... La première idée, c'est effectivement de retirer une partie de la dette royale qui circule ou qui est dans les mains des créanciers en leur permettant de payer leur souscription aux actions de ces deux compagnies, la banque et la Compagnie des Indes, avec cette dette. Ce qui veut dire que cette compagnie, ces compagnies, elles sont pauvres puisque ce qu'elles ont reçu comme souscription en capital, c'est essentiellement du papier de la dette royale. En échange de quoi, Law, qui n'est pas idiot, a obtenu une garantie d'un versement régulier de la part du Trésor pour faire fonctionner les compagnies. Le problème, c'est que l'idée est de vendre succès, en quelque sorte, de gens qui se débarrassent de créances sur l'État dont la valeur nominale est de la moitié ou du tiers de la valeur réelle est la moitié ou du tiers de leur valeur nominale. Donc ils sont très intéressés à obtenir une valeur nominale qui est celle de la compagnie. Les actions de cette compagnie augmentent, donc les gens ont un sentiment d'enrichissement. Et donc tout le monde saisit l'opportunité, à la fois d'un côté particulier pour spéculer, et du côté de l'As pour émettre davantage, de plus en plus, de cette monnaie magique, en quelque sorte.
À tel point que le système finit par s'écrouler.
Exactement.
En 1720.
On a une magnifique bulle, la première bulle financière moderne.
C'est le terme de bulle date de cette époque. Et alors, la différence, j'ai cité donc... le parallèle britannique. La différence, c'est que la compagnie coloniale britannique destinée à racheter la dette de l'État était en opposition politique avec la Banque d'Angleterre, qui, elle, existait déjà, au contraire de la France, qui n'a eu la Banque de France, comme vous le savez, un siècle, n'arrive qu'un siècle plus tard.
Elle sera créée par Napoléon au début du 19e siècle.
Et donc, la différence, c'est que en France... la faillite de Las va retarder de presque un siècle la naissance d'une véritable banque centrale qui est quand même largement un des moyens de maintenir la confiance.
Alors avançons un petit peu dans le temps, sous le règne de Louis XV ensuite, les guerres continuent, avec la Pologne d'abord, puis l'Autriche, enfin la Silésie, et la dette de l'État ne cesse d'augmenter, d'autant qu'il faut ajouter le coût des subsides qui sont versés aux pays étrangers, avec lesquels on souhaite s'allier, Michel Lotfala.
Absolument, et du coup... Le règne de Louis XV, est riche en guerre, donc en endettement. Alors, qu'est-ce qui va se passer sous Louis XV? Ben, il va d'abord se passer le fait que Louis XV va prendre en 1769, comme contrôleur des finances, un abbé Théré, dont un historien moderne a dit que son sport favori, une expression moderne, comme vous le constatez, c'est de tondre les rentiers. L'abbé Théré, effectivement, va mener une banqueroute. Et ceci va durer, en gros, jusqu'à la mort de Louis XV. Il faudra attendre donc l'arrivée au trône de Louis XVI. Louis XVI est un monsieur très différent de son...
Alors, avant d'en arriver à Louis XVI, ce que vous nous expliquez, Michel Lotfala, c'est que ces tentatives, alors il y a celle de Clément Charles François de Laverdie, qui est contrôleur général des finances sous Louis XV, après l'abbé Théré que vous avez cité, ces tentatives pour diminuer la dette, en fait, ne fonctionnent pas, et notamment parce que même en temps de paix, les dépenses militaires continuent à absorber 43% des paiements acquittés. Ça, c'est ce qu'on constate à ce moment-là. Alors, je vous propose justement d'écouter un extrait de l'esprit des lois de Montesquieu qui paraît en 1748.
Il faut qu'il y ait une proportion entre l'État créancier et l'État débiteur. L'État peut être créancier à l'infini, mais il ne peut être débiteur qu'à un certain degré. Et quand on est parvenu à passer ce degré, le titre de créancier s'évanouit. Si cet État a encore un crédit qui n'est point reçu d'atteinte, il pourra faire ce qu'on a pratiqué si heureusement dans un État d'Europe, c'est de se procurer une grande quantité d'espèces et d'offrir à tous les particuliers leur remboursement, à moins qu'ils ne veuillent réduire l'intérêt. Il y a quatre classes de gens qui payent les dettes de l'État. Les propriétaires des fonds de terre, ceux qui exercent leur industrie par le négoce, les laboureurs et artisans, enfin les rentiers de l'État ou des particuliers. De ces quatre classes, la dernière, dans un cas de nécessité, semblerait devoir être la moins ménagée, parce que c'est une classe entièrement passive dans l'État, tandis que ce même État est soutenu par la force active des trois autres. Mais comme on ne peut la charger plus sans détruire la confiance publique, dont l'État en général et ses trois classes en particulier ont un souverain besoin, comme la foi publique ne peut manquer à un certain nombre de citoyens sans paraître manquer à tous, comme la classe des créanciers est toujours la plus exposée aux projets des ministres et qu'elle est toujours sous les yeux et sous la main, il faut que l'État lui accorde une singulière protection et que la partie débitrice n'ait jamais le moindre avantage sur celle qui est créancière.
Alors on l'entend, Montesquieu nous dit que l'État est obligé peut-être de ménager ses créanciers. Montesquieu qui s'est beaucoup élevé contre la dette publique, Patrice Bobeau.
Alors oui, il dit même d'autres choses, on va y revenir. On retrouve ici ce phénomène de la collusion sociale et politique entre les créanciers, la classe des créanciers et l'élite politique de l'époque, qui est privilégiée, c'est-à-dire qui ne paye pas d'impôts. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce que la dette fonctionne un peu comme un impôt à l'envers. C'est-à-dire qu'elle prélève sur les actifs et elle verse aux inactifs. Et ces actifs sont justement parmi les plus riches. Donc on a véritablement un phénomène inverse de la redistribution fiscale. Et on peut ajouter cette petite citation de Montesquieu, tirée du même ouvrage, qui est « On ôte les revenus véritables de l'État à ceux qui ont de l'activité ou de l'industrie pour les transporter aux gens oisifs, c'est-à-dire qu'on donne des commodités pour travailler à ceux qui ne travaillent point et des difficultés pour travailler à ceux qui travaillent. »
C'est cette injustice fondamentale, selon Montesquieu, qui existe dans le système de la dette sous l'Ancien Régime, qui le pousse à dénoncer ainsi la dette publique dans l'esprit des lois. Michel Lotfala. Alors,
oui,
Patrice Bobeau.
Ce que critique Montesquieu principalement, c'est ce phénomène-là. C'est ce phénomène de renversement de l'ordre naturel, suivant lequel on est bien obligé de protéger les créanciers, mais que en protégeant les créanciers, en fait, on protège une classe de citoyens bien particulière qui ne sont pas ceux qui ont le plus fort mérite dans le soutien de l'État.
Alors, Louis XV meurt en 1774, et c'est le début du règne de Louis XVI, et les différents ministres des Finances vont se succéder, Turgot, Cluny, Necker, Joly de Fleury, mais ils peinent à arranger la situation, et Necker, notamment, va recourir massivement à l'emprunt, ce qui va entraîner une dette boule de neige. Il faut emprunter plus pour payer les charges de la dette. Quelle a été l'erreur de Necker, Michel Loutfala?
Alors, d'abord, il faut noter que Necker, Turgot arrive en disant, en écrivant au roi, sire, point de banqueroute. On sait ce qui s'en est suivi ultérieurement. Et il se fait beaucoup d'ennemis, et c'est Necker, financier suisse, qui va venir s'occuper des affaires. Alors, Necker, Mirabeau l'appellera l'homme des emprunts. Si vous voulez, sa formation le pousse à ça. Et c'est un homme qui également est tout à fait compétent en matière de publicité. Alors il va sortir un compte-rendu au roi sur les finances de l'État qui fera ressortir que la situation est très bonne, évidemment. Il sous-estime les dépenses et il surestime les recettes. Et ce compte-rendu au roi sera appelé très rapidement un compte bleu, c'est-à-dire un conte de fées, si vous voulez. Et en fait, Necker est contraint continuellement d'emprunter. Alors, c'est quand même pas tout à fait sa faute. Rappelez-vous que nous sommes au moment de la guerre d'Amérique et qu'il faut financer les insurgents américains contre l'ennemi héréditaire qui est l'anglais. Et donc, il va essayer un peu tout pour y arriver, mais en émettant des emprunts parfois très coûteux. Alors, le chef-d'œuvre du genre, parmi les systèmes d'emprunt, on n'en a pas parlé jusqu'ici, se trouve ce qu'on appelle des tontines. Si tu veux, Patrice, nous rappeler la tontine des Genevoises.
En deux mots, donc le principe de la tontine, c'est que on emprunte sur la tête de quelqu'un qui va vivre un certain temps, et plus cette personne vit longtemps, plus l'État paye, en quelque sorte. Et donc, évidemment, ceux qui veulent prêter à l'État sous forme tontinière sont soucieux de trouver des gens dont l'espérance de vie est la plus élevée possible. Et donc, lors de l'emprunt, le fameux emprunt de Necker, les bourgeois de Genève sélectionnent 30 jeunes filles issues de familles bourgeoises qui toutes ont contracté la variole étant jeunes et ont guéri, qui est la principale cause de mortalité par maladie chez les jeunes gens à l'époque. Et donc, comme elles sont dans des bonnes familles, que ce sont des filles, on sait déjà que les filles vivent plus longtemps que les garçons à cette époque, eh bien, elles ont la probabilité la plus élevée d'une durée de vie très longue. Et ce qui est curieux, si vous voulez, a posteriori, c'est que malgré ces garanties considérables, le taux d'intérêt est relativement élevé, ce qui en fait un emprunt extrêmement coûteux.
Alors, à la veille, Michel,
je rajouterais que les dernières genevoises à décéder l'ont fait sous le Second Empire. Alors, je ne sais pas si vous voyez.
Elles étaient bien choisies.
Elles ont effectivement vécu
vraiment
bien longtemps.
Très, très, très bien choisies.
Et alors, à la veille de la Révolution française, la situation est vraiment catastrophique, puisque le taux d'intérêt est donc trois fois supérieur à celui de la croissance, vous le disiez, Michel Loutfala. Mmh. Et alors, la haine des taxes entraîne une nouvelle réflexion sur la dette de l'État chez les révolutionnaires. Et en même temps, la Révolution va donner finalement le coup de grâce aux finances de l'État.
Oui, mais Michel alors, ce qui est assez fascinant, c'est que la nouvelle Assemblée nationale, celle qui s'est proclamée telle, le 13 juillet 1789, donc à la veille du 14 juillet, proclame que la dette de l'État sera intégralement remboursée, totalement protégée. Et on sait ce qui s'en sera sous la Révolution, puisque 8 ans plus tard, en 1797, comme vous le rappeliez en introduction, les deux tiers de la dette sont réduites à zéro.
Alors, on va y revenir, mais avant cela, en avril 1790, l'Assemblée finit par voter la mise à disposition de la nation des biens du clergé.
On estime que le clergé a à peu près 3 milliards de biens. Donc, on fait la balance. 3 milliards de biens pour 3 milliards de dettes. Si on vend les biens du clergé, eh bien, on aura annulé la dette. Idée absolument géniale, sauf que c'est pas si simple de mettre en vente 3 milliards de biens. Il faut qu'il y ait un financement. Et donc, pour que le financement puisse avoir lieu, on va émettre des billets qui permettront de payer les créanciers. Et avec ces billets, qui pourront d'ailleurs circuler, on pourra acheter les biens nationaux, les biens du clergé. C'est une opération d'une lourdeur incroyable qui nécessite d'abord de mettre en vente ces biens un peu partout en France, ensuite de gérer le crédit puisque les acquéreurs achètent à crédit. Donc ça demande une structure extrêmement compliquée. Et ces billets sont censés uniquement au départ permettre d'acheter les biens du clergé. Le problème, c'est que progressivement, on va passer de billets gagés sur les biens du clergé à des billets gagés sur un potentiel qui n'existe pas, puisqu'on va émettre des billets en masse. On va en émettre 63 milliards au lieu des 3 milliards prévus initialement.
Voilà, on entendait Gérard Bord, historien et directeur de recherche au CNRS. Ces billets sont appelés les assignats et ils sont en quelque sorte un perfectionnement du système de l'eau, Michel Loutfala.
Oui, avec, si vous voulez, dans le cas de l'As, c'était la Compagnie des Indes. Là, c'est ce qu'une des personnalités révolutionnaires appelait le Pérou de l'Église. Par analogie avec les masses métalliques qui étaient arrivées au moment de la conquête des Amériques.
C'est en tout cas la naissance de la planche à billets.
Oui, non, mais le problème, c'est que parallèlement à la désorganisation générale du pays due à la Révolution, la guerre commence très rapidement et nous retombons, comme d'habitude, sur la première cause et la plus importante cause de, avec les révolutions dans l'ordre politique, qui a lieu aussi à ce moment-là, sur les causes de dette publique. Et donc, il va falloir émettre des quantités invraisemblables de billets compte tenu de l'état de la richesse nationale. Et en 1797, après...
Il y a des planches à billets physiquement qui sont brûlées sur la place Vendôme, notamment le 19 février 1796. On voit que ce système a entraîné un certain nombre de dérives, Patrice Bobo.
Alors, je ne sais pas. Ce qui est intéressant, c'est le mélange des genres, en fait. On a cette volonté qui est réaffirmée jusqu'à la Terreur. Clairement, Saint-Just le clame. Il faut respecter la parole de l'État et donc il faut que les créanciers soient remboursés. Et que rembourser les créanciers, c'est faire des républicains. Un deuxième élément, qui est qu'on a une pénurie monétaire qui démarre vers 1788, parce qu'on est en pleine crise économique, parce qu'il y a une crise de confiance, et que dans ces cas-là, ce qu'on appelle le numéraire, c'est-à-dire les pièces d'or et d'argent, se cachent, et que les gens préfèrent payer avec du papier, parce que ils conservent de cette manière-là leurs pièces. Et donc, l'émission d'assignats, à l'origine, ces assignats sont conçus comme des titres financiers, et dans le courant de 1790, on les transforme en billets, en monnaie. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, il n'y a pas de monnaie. Et donc, on va devoir découper ces assignats en petites coupures. Parce qu'évidemment, les premiers assignats, ils sont émis dans des coupures de 500 ou 1000 livres. C'est absolument inutilisable dans la vie quotidienne. Ça représente des dizaines de milliers d'euros aujourd'hui, si vous voulez, en pouvoir d'achat. Donc, il faut faire circuler de la monnaie qui vienne compenser la disparition de la petite monnaie. Et on voit ce lien très fort et qui ne fait que se renforcer entre la monnaie et la dette de l'État. Parce que d'une certaine façon, l'État est le garant du bon fonctionnement du système monétaire. Et on avait cet exemple américain où la guerre d'indépendance américaine a été financée par de l'émission de papier. Et ça a merveilleusement réussi. Donc les révolutionnaires n'ont pas forcément l'impression de faire quelque chose d'absurde.
Et alors pourquoi ça ne marche pas en France ?
Alors, comme l'a dit Michel, les montants émis sont sans commune mesure, ni avec le patrimoine de l'Église ou des émigrés, ni avec la richesse nationale.
Donc les émigrés, les nobles qui ont fui la Révolution.
Exactement. Il y a une crise de confiance majeure qui fait que les gens fuient devant ces billets, donc ils perdent très très rapidement leur valeur, au point que les gens qui vont acheter des biens nationaux avec ces billets dévalués vont faire des plus-values absolument mirifiques, c'est-à-dire qu'ils valent moins que leur capacité réelle, et qu'en plus on enchaîne les systèmes d'émissions adossés les uns aux autres. C'est-à-dire que les assignats ne sont pas la fin de l'histoire puisque suivent des billets territoriaux, les bons communaux, etc. Et que continue à circuler tout un tas de papiers d'État ou de traitants qui reposent sur le crédit de l'État visant à payer des fournitures de l'armée, etc.
Et alors, dans ce contexte très perturbé, le directoire décrète la banqueroute dite des deux tiers le 30 septembre 1797. C'est la dernière banqueroute de l'État en France, mais c'est aussi la plus violente, Michel Loutfala.
Alors, c'est la dernière banqueroute violente, car nous verrons avec Patrice tout à l'heure qu'il y a une deuxième forme de banqueroute très efficace également pour réduire la dette, c'est la banqueroute sournoise ou silencieuse, c'est-à-dire l'inflation. Et l'inflation peut être extrêmement efficace, on le verra, les exemples qu'on pourra vous donner sur les deux guerres mondiales où la France a dû intervenir.
Alors en 1799, Napoléon arrive au pouvoir après le coup d'État du 18 Brumaire. C'est le début du consulat et Napoléon qui a la réputation d'être un grand ennemi de l'emprunt. Il va apporter une certaine stabilité, il va assainir dans une certaine mesure les finances de l'État, Michel Loutfala.
C'est en partie vrai et en partie un peu légendaire car on peut donner deux exemples d'ailleurs. Napoléon va réintroduire la vente des offices de financiers, ça va s'appeler la caution des... mais le reste est le même. Et l'empereur, qui a contribué à la fondation de la Banque de France, va également solliciter des prêts à court terme de la Banque de France. Et troisièmement, l'empereur, la dette donc va continuer. Ce qui reste de la dette après la banqueroute Rammel de 1797, l'empereur va beaucoup insister pour qu'une large partie de la dette se trouve entre les mains de ce que nous appelons aujourd'hui les investisseurs institutionnels. Et c'est-à-dire que la dette ne circule pas trop. Mais l'empereur est extrêmement attentif à l'évolution du taux de la dette. Et comme vous le savez, la deuxième partie de l'Empire...
Ce sont les guerres successives qui déstabilisent à nouveau les finances de l'État.
Donc la Russie, l'Espagne et puis bien entendu Waterloo vont être extrêmement négatifs pour la dette.
Après l'invasion de la Russie impériale en 1812, en effet, la débâcle financière semble assez totale. Vous écoutez l'opus 228 de la marche hongroise de Franz Liszt sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Et nous sommes toujours avec Michel Loutfala et Patrice Bobo. Nous retraçons l'histoire des banqueroutes de l'État en France. Alors après la chute de Napoléon s'ouvre en 1815 la restauration. Commence alors une période de modernisation du système financier de l'État, Patrice Bobo.
Oui, alors on va encore revenir en arrière, mais une dernière fois. La faillite de 1797, la faillite des deux tiers, elle fonde aussi ce qui va être le titre roi du marché financier français au XIXe siècle, c'est-à-dire la rente. Et alors à l'époque, c'est la rente 5%. Il y aura plusieurs sortes de rentes qui apparaîtront au fil du temps. Et cette rente 5%, c'est un petit peu la colonne vertébrale du marché financier français. Et la faillite a permis d'organiser cette dette, de l'inscrire. Il y a un grand livre de la dette. Et les porteurs de la dette sont précisément identifiés et ils ont des droits qui sont tous absolument similaires, égaux. La dette, elle est entièrement homogène, ce qui permet l'existence d'un véritable marché public avec un prix. Et ce prix, c'est un rapport à la valeur nominale de la dette, à ce qu'on appelle le PER, et ça permet de calculer un taux d'intérêt. Et lorsque ce taux d'intérêt diminue, c'est-à-dire que la confiance augmente, quand le taux d'intérêt augmente, eh bien la confiance dans la capacité de l'État à payer se réduit. Et donc le XIXe siècle, il va être marqué complètement par ce baromètre de la confiance publique qui est la valeur de la dette. Et c'est pour ça que Napoléon voulait tellement que la dette soit contrôlée par la Caisse d'amortissement à la Banque de France pour empêcher justement que la valeur de la rente ne s'affaisse.
Ce qui change peut-être avec la Restauration, c'est le fait que désormais la garantie constitutionnelle de la rente est appliquée.
Alors, Napoléon l'a fait. Ce qu'il n'a pas fait, c'est qu'il a divisé, pour faire simple, les dépenses de l'État en deux catégories, les dépenses ordinaires financées par les impôts, les prélèvements fiscaux, et puis ce qu'il appelait la caisse de l'extraordinaire, qui est en fait c'était le trésor des 40 voleurs, c'est-à-dire qu'on va piller l'Europe, on récupère des subsides, des tributs et des richesses, et on s'en sert pour financer, comme une boule de neige finalement, de nouvelles conquêtes. Donc le phénomène de grossissement en boule de neige de la dette qu'on observe généralement, chez Napoléon, il s'opère pas par l'accumulation d'impayés, mais par l'augmentation d'une espèce de délire guerrier, en quelque sorte. Donc ça, c'est sa forme d'explosion de la dette. Et cette dette-là, qu'on n'attribue pas à Napoléon, on la retrouve précisément en 1816, quand il va falloir payer l'occupation, les indemnités aux alliés, les dettes que les alliés avaient, notamment les Anglais, se sont fait rembourser les dettes de la période révolutionnaire et pré-révolutionnaire au taux fort.
On quitte le territoire si vous nous remboursez, c'est ce que disent les armées ennemies.
Non seulement si vous nous payez l'indemnité prévue par les traités de paix, mais également si vous nous remboursez les dettes que vous aviez à notre égard avant même la guerre. Et donc la dette publique fait un saut entre 1815 et 1818, lié en fait au solde de ces opérations.
Et alors, pendant la monarchie de juillet, de 1830 à 1848, l'essor économique va entraîner de fortes dépenses de l'État dans les infrastructures. Il va notamment y avoir beaucoup de spéculation sur les actions ferroviaires après la loi sur les chemins de fer de 1842.
Alors, on voit apparaître un troisième terme dans la question de la dette sous la monarchie de juillet. En fait, jusque-là, comme on l'a dit, il y a deux éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est les ressources fiscales de l'État qui varie en fait avec le montant des impôts. Et puis le deuxième élément, c'est les manipulations monétaires. Et là, on voit apparaître un troisième élément qui est la croissance économique. C'est-à-dire que pour la première fois, la croissance économique, potentiellement, peut avoir un impact sur la dette, non pas en réduisant le montant, c'est pas forcément le cas, mais en réduisant le poids relativement à la taille de l'économie et à la taille du budget de l'État.
Et c'est pour ça que la crise de 1848 qui débouche sur la Seconde République, en réalité c'est une crise politique, mais c'est aussi une crise financière, Patrice Bobo.
Alors oui, c'est une très grave crise. C'est la plus grave crise du 19e siècle, une crise qui a pris dans certains pays des proportions absolument gigantesques, comme en Irlande ou dans la Flandre belge. En France, l'impact est plus limité, mais c'est quand même la plus grave crise française du 19e siècle. Et c'est une crise qui est à la fois économique, sociale, politique, agricole, évidemment financière.
Et qui ne touche plus seulement les riches, comme c'était peut-être le cas à l'époque de John Law.
Alors, les crises ont toujours touché tout le monde. Comme l'avait rappelé Michel, John Law, il arrive notamment après le terrible hiver de 1709, qui a fait peut-être 1 million de morts. Donc, ça touche tout le monde. Mais on n'est pas forcément au courant par des témoignages dans une population qui est peu alphabétisée. Lorsque en 1847 la crise touche tout le monde, c'est aussi parce que la France est une société politique et qu'on est beaucoup plus au courant de ce qui se passe dans toutes les couches de la population. Et puis il y a cette nouvelle chose, et là vous avez entièrement raison, c'est les caisses d'épargne. C'est-à-dire que les caisses d'épargne, ça va donner une sorte de thermomètre de la réaction de confiance dans l'argent des classes populaires. Et qu'est-ce qu'on observe en 1848? Pour la première fois, on a ce qu'on appelle une décollecte massive des caisses d'épargne. C'est-à-dire que les gens victimes de la crise, mais aussi très inquiets de la valeur de leurs économies, vont retirer leur argent des caisses d'épargne. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont inquiets? Pour une raison qui est toute simple, c'est que les fonds des caisses d'épargne sont investis en dette publique.
Alors ce qu'on constate en même temps, tout au long du 19e siècle peut-être, et notamment après le coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851, c'est que d'un côté la dette va continuer à gonfler inexorablement, mais que le nombre de porteurs de rente aussi va augmenter. Patrice Bobo, il y a une sorte de démocratisation du poids de la dette publique.
Oui, alors sous le Second Empire, la dette augmente réellement rapidement. Mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est parallèle à une croissance économique qui était elle-même rapide. Donc la masse de la dette augmente, mais son poids relatif beaucoup moins. Et cela se ressent dans le fait que cette euphorie économique va favoriser une réduction du taux d'intérêt de la dette. Et cette réduction du taux de l'intérêt de la dette va autoriser l'État pour la première fois, à partir de 1852, à procéder de manière massive à ce qu'on appelle des conversions. C'est-à-dire que, on l'a dit, la dette, elle est perpétuelle. C'est la rente. C'est-à-dire que l'État n'est pas engagé finalement pour un capital, il est engagé pour un revenu. C'est comme s'il payait un loyer, si vous voulez. Mmh. Et un loyer, puisqu'il occupe cette dette de manière perpétuelle, ben, il paye ce loyer de manière perpétuelle. Et ce loyer, il est caractérisé par un taux d'intérêt. La rente à 5%, c'est un taux d'intérêt de 5%. Comme la confiance se développe, comme le crédit de l'État s'est amélioré, eh bien, le taux d'intérêt des marchés diminue, et diminue largement en dessous de ces 5%. Et donc l'État va faire des opérations de conversion, c'est-à-dire qu'il va proposer, pour simplifier aux épargnants, de choisir entre le remboursement des titres de dette qu'ils détiennent, ou l'échange de ces titres de dette à 5% contre des titres de dette avec un taux d'intérêt qui est plus faible. Et donc, au fil du Second Empire et dans les années qui suivent, avec la petite exception de la période des 10 années qui suivent la défaite contre la Prusse et l'Allemagne en 1871, eh bien, malgré son gonflement en capital, le coût de la dette évolue plus modérément grâce à cette conversion.
Et alors à partir de 1852, les travaux d'Haussmann à Paris vont peser lourdement sur les finances de l'État, des dépenses largement critiquées, comme on peut l'entendre dans cette reconstitution des débats parlementaires du Second Empire. Ernest Picard, député de la Seine, s'en prend au baron Haussmann. Nous sommes en 1865.
Après avoir commencé un tel éloge, l'honorable rapporteur du budget ajoute que, pour bien faire, il faudrait augmenter les capitaux disponibles et conclut par un emprunt. Oh, rien n'est plus simple. On veut exproprier, car on exproprie toujours. On n'a pas assez de capitaux disponibles, mais avec des spéculateurs, on peut s'entendre. On trouve des spéculateurs qui veulent bien faire des avances. Seulement, lorsque les spéculateurs font des avances, ils ont toujours un caissier qui est le public. Ce n'est pas, comme dit monsieur le préfet de la Seine, que je ne reconnais pas pour être mon maître comme jurisconsulte, un simple transport de créances. C'est un emprunt très dangereux.
Mais oui.
N'est-ce pas un emprunt? Mais si ce n'est pas un emprunt, ce sera de l'argent emprunté. Et emprunté contrairement aux règles de la bonne administration.
Emprunté contrairement aux règles de la bonne administration. Voilà ce que nous dit le député Ernest Picard en 1865. Les travaux d'Haussmann ont alors commencé 13 ans plus tôt. Michel Loutfala.
Les contes fantastiques du baron Haussmann. Est-ce que vous me permettez de revenir une seconde sur la restauration?
Je vous en prie.
Parce que dans les propos qu'a tenus Patrice, il insiste, à tout à fait raison, sur les taux de la rente. La rente, à la veille de Brumaire, par exemple, à la veille de la prise de pouvoir de Napoléon, était à 400%, il y a Waterloo, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Nous avons, comme l'a rappelé Patrice, non seulement, en plus, il y a une conjoncture économique qui est au moins aussi mauvaise que celle de 1848, puisque en 1815, il y a un volcan qui explose dans ce qui est aujourd'hui l'Indonésie, et en 1816, il n'y a pas d'été dans l'ensemble de l'hémisphère. Donc, dans une économie agricole, il n'y a pas d'été. Là-dessus, nous avons des centaines de milliers de troupes étrangères à entretenir, à commencer à payer les dettes. Eh bien, la question se pose à ce moment-là aux hommes politiques de l'époque. Et est-ce qu'on va pas faire banqueroute d'abord? Ben non. Le baron Louis, qui a été formé du temps de Monsieur Talleyrand, c'était un des jeunes commensaux de Talleyrand, le baron Louis dit qu'il faut surtout payer les dettes, même celle de nez d'erreur des autres.
Il faut assumer la dette.
Voilà, il faut assumer la dette. Et alors, il est certain que le système politique de la Restauration, qui est extrêmement censitaire, c'est-à-dire qu'il y a peu d'électeurs, le système est qu'on réintroduit pour payer la dette les impôts indirects, qui étaient extrêmement impopulaires sous l'Ancien Régime, ceci aide. Et au point que en 1824, on est donc plus sous Louis XVIII, mais sous Charles X, pour la première fois, le taux de la dette, de la rente, revient à 3%. Et 3%, c'est un chiffre magique dans l'économie française de l'époque. En gros, c'est le rendement de l'économie agricole. Donc on est à 3%. Et 3%, la question se pose, qu'est-ce qu'on va faire désormais, puisqu'on a atteint le père de la dette, tu l'évoquais tout à l'heure, et qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, l'idée de la restauration, c'est de convertir et de, avec l'argent qu'on a gagné, de le distribuer aux émigrés. Et ça sera le fameux milliard des émigrés. En fait,
donc,
l'idée, c'est de remettre 300 millions de titres de dette, qui capitalisés font en gros un milliard, aux émigrés pour les compenser de tout ce qui s'est passé sous la Révolution.
De toute l'espoliation. Alors, on va revenir sur les contes fantastiques du baron Haussmann. Voilà. Patrice Bobeau, comment comprendre alors cette défiance qui survient en 1865?
Alors, un des éléments qui joue à ce moment-là, c'est l'essor considérable en fait du marché financier parisien. Il date vraiment du Second Empire. Et un très grand nombre d'obligations, de titres obligataires, de titres d'action également, mais ce sont les titres obligataires qui ont le plus succès, arrivent sur le marché parisien. Et donc on a, à ce moment-là, un élargissement en fait de la dette publique qui est en quelque sorte clandestine, au sens où la dette publique, théoriquement, c'est la rente, et se développe un grand nombre d'autres formes de dettes qui sont pas formellement nécessairement publiques, mais sur lesquelles l'État a apporté sa garantie. La dette des obligations des chemins de fer, les dettes des villes qui entreprennent ces grands travaux, et dans le cas d'Haussmann, c'est les travaux parisiens sont financés par de la dette sur la ville de Paris. Également une circulation de bons du Trésor. Et donc il y a cette accusation que au-delà en fait des comptes annoncés de l'augmentation de la rente à travers des nouvelles émissions de rente, eh bien il y a un gonflement de cette dette obligataire plus ou moins occulte.
Mais on se rassure peut-être en se disant que les progrès de la civilisation et la modernisation de la relation avec les créanciers vont faciliter l'emprunt. Alors l'endettement va atteindre 120% du PIB à la fin des années 1880, mais la situation va progressivement se stabiliser et la forte croissance revient, marquant le début de la belle époque qui durera jusqu'à la Première Guerre mondiale, Patrice Bobeau.
Voilà, alors ce pic de la fin des années 1880, il est lié très largement au solde de la guerre de 1870-71, hein, qui a été très coûteuse. C'est-à-dire qui a ajouté à la dette du Second Empire une dette de défaite.
5 milliards de francs or exigés par Bismarck.
Tout à fait, plus tous les frais...
Plus la perte des territoires.
Exactement. De l'Alsace et de la Lorraine, en effet.
Parce qu'on a une réduction quand même de la capacité contributrice. Alors, c'est là où on voit que les trois formes jouent à la fois, c'est-à-dire l'évolution monétaire, puisque la monnaie est stable sur la période, donc l'État ne joue pas sur ce phénomène. La croissance économique, qui est très faible, en fait, entre 1870 et 1890. Donc ça veut dire que la base fiscale, en quelque sorte, n'augmente pas ou pas suffisamment pour réduire le poids relatif de la dette. Et puis enfin, l'effort budgétaire lui-même, c'est-à-dire de réduire le déficit budgétaire. On est dans une phase encore, malgré les réformes Villèle de 1822, de grand désordre budgétaire. On a parfois 5 ou 6 exercices budgétaires ouverts simultanément, donc les choses ne sont pas entièrement claires. Il y a beaucoup de dettes à court terme qui est émise. Et schématiquement, on a un palier en fait dans le volume de la dette entre 1877 et 1905. La dette est quasiment stable. Elle n'augmente qu'à partir de 1905.
Et ensuite, nous avons en 1914... en valeur absolue, la dette publique la plus importante au monde.
Alors justement, après évidemment, les recettes de l'État vont être modifiées par l'instauration quelques jours avant le début de la guerre de 14 de l'impôt progressif sur le revenu. Et alors on arrive malheureusement à la fin de cette émission. Je vais vous demander peut-être un mot de conclusion très rapidement et peut-être autour du fait que l'histoire de la dette, c'est finalement l'histoire de la modernisation des mécanismes de l'emprunt, mais aussi peut-être l'histoire de la responsabilisation de l'État vis-à-vis de ses créanciers, Patrice Bobeau.
Oui, et sachant que peut-être ce qui change à ce moment-là, à la fin du XIXe siècle, c'est ce renversement de l'impôt qui devient redistributif. C'est-à-dire que la dette a joué le rôle inverse de l'impôt en quelque sorte, elle a distribué des pauvres vers les riches. Et à partir du début du XXe siècle, on a un phénomène presque inverse qui commence à se mettre en place.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffany, bonjour à tous.
Vous avez choisi de vous intéresser aujourd'hui à la question de la dette italienne.
Mais oui, alors que la Commission européenne vient d'entamer dans sa grande sagesse une procédure pour endettement excessif contre Rome, médias et observateurs sont aux aguets dans l'attente d'une réaction des marchés qui viendrait montrer aux Italiens ce qu'il en coûte de désobéir aux sacro-saintes règles de l'efficience budgétaire. Une fébrilité encore aggravée par la relative déconvenue du gouvernement lors de son appel patriotique aux épargnants italiens, les encourageant à acheter des bons du Trésor. Le ministre d'extrême droite, Matteo Salvini, entendait effectivement faire de la démonstration de son indépendance vis-à-vis de ses créanciers en mobilisant les bas de laine de ses concitoyens.
Une opération qui n'a pourtant permis de lever que 860 millions d'euros.
Oui, ce qui représente la plus mauvaise récolte depuis la mise en place de ce système d'émission de bons du Trésor à destination des épargnants en 2011. On voit donc se multiplier les analyses et les éditoriaux nous expliquant que cet échec relatif serait le signe d'une perte de confiance des Italiens vis-à-vis de leur gouvernement. En clair, les habitants de la péninsule se seraient rendus compte du caractère irréaliste et dangereux des réponses formulées par la coalition des populistes et des extrémistes. Il serait donc nécessaire, vital même, de cesser ces errances politiques et de revenir à une forme de sérieux économique et budgétaire. Or, si l'on peut évidemment dénoncer les dérives d'un gouvernement xénophobe, on ne peut dans le même temps feindre d'ignorer que ce sont justement ces politiques d'ajustement budgétaire et d'austérité qui ont poussé les Italiens dans les bras des partis europhobes. Difficile donc de déplorer aujourd'hui les effets dont on chérit par ailleurs les causes.
Il faut dire, Arjuna, que l'Italie a toujours constitué un laboratoire d'expérimentation politique et démocratique.
Oui, pour le meilleur mais aussi pour le pire. Après les frasques égotiques d'un Silvio Berlusconi, ce sont les experts et les technodémocrates qui ont été appelés pour gérer l'intendance d'un pays prétendument aux abois. Le problème, c'est que loin d'imaginer des politiques publiques alliant un impératif démocratique et les nécessités de justice sociale, ce sont encore une fois les mêmes recettes bien connues de libéralisation, de flexibilisation et d'ouverture des marchés qui ont été choisis comme potion magique universelle aux maux de la péninsule. Une succession de gouvernements et de politiques qui frappent tant elle apparaît comme une vision prophétique et hallucinée des évolutions que pourraient suivre d'autres pays européens dans les temps à venir.
En réalité, vous nous dites que ces réformes ont surtout un usage politique et de pouvoir.
Oui, on se rappelle d'ailleurs les bons conseils dispensés par le ministre italien des Finances, Pier Paolo Padoan, à son homologue grec Yanis Varoufakis au moment des négociations musclées pour le prétendu plan de sauvetage de la Grèce. En marge de ces discussions, le ministre italien lui avait ainsi expliqué que s'il voulait que ses créanciers, allemands, néerlandais et autres membres zélés de l'Eurogroupe le laissent tranquille, il n'avait qu'à mettre en place les réformes du marché du travail et des retraites tout droit sorties du manuel du parfait petit libéral. Après ça, plus de problèmes. La dette opère donc comme une arme de pouvoir. Après avoir émergé comme un objet médiatique et politique au début des années 2000, c'est la bien nommée crise des dettes souveraines qui donne à cet instrument toute sa puissance coercitive. Elle permet d'agiter perpétuellement le risque d'effondrement pour légitimer les politiques les plus injustes et antisociales. On se rappelle ainsi du drame de la Grèce que l'on s'était forcé de sauver en l'asphyxiant économiquement.
Or, des politiques alternatives existent.
Oui, on peut penser à la coalition au pouvoir au Portugal qui, prenant ses distances avec le dogme budgétaire, a décidé de mener une série de politiques sociales et de relance permettant de réduire le chômage et de relancer la croissance. Si cette politique ne constitue pas une solution miracle puisqu'elle néglige les investissements d'avenir que sont l'éducation ou la santé, elle montre cependant qu'un chemin est possible hors du diktat politique de la réduction de la dette. I put my money in a bank account. I put my money in a bank account. I put my money in a bank account, but the bank fell down and the money's never coming back out. I put my money in a bank account. You put your money in a bank account. I put my money in a bank account, but the bank fell down and the money's never coming back out.
Bankrupt de Chris Titi. Merci beaucoup Michel Lutfala et Patrice Bobo de nous avoir accompagnés aujourd'hui.
Merci.
Michel Lutfala, je rappelle l'ouvrage que vous avez dirigé, Une histoire de la dette publique en France, paru chez Classique Garnier. Un grand merci à tous les deux. On se retrouve demain pour une émission consacrée au spectre du surendettement. En attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho. Lying by a mission about cash.
you've never seen, you'll never see.